Vous écoutez IDFM, il est 14h.
En Ile-de-France,
vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM sur 98FM.
Un bout de chemin ensemble avec Isabelle Gonce. Tous les 15 jours, je vous propose d'aborder ensemble des sujets qui vous touchent, des sujets qui concernent le développement personnel, la psychologie et qui aident à se sentir mieux dans sa vie. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Chavel, qui est coach, qui est associé dans un cabinet de coaching à Paris. Il enseigne également le coaching à des étudiants, en particulier à l'université Panthéon Assas, à HEC également. Il est également enseignant et créateur du seul diplôme d'état de coaching, CIFOP, donc dans le cadre de l'université. Donc un spécialiste du coaching. Bonjour Thierry Chavel, bienvenue.
Bonjour Isabelle.
Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur Radio Anguien. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une actualité qui vous concerne. Vous venez de publier un livre aux éditions Erol, un livre qui s'intitule « La pleine conscience pour travailler en se faisant du bien ». Ce livre est une sorte d'initiation pratique au bonheur professionnel. C'est donc possible d'être heureux dans son travail ?
J'espère que c'est possible d'être heureux dans son travail. En tout cas, moi je m'y emploie et je rencontre des gens qui s'y emploient. Souvent le point d'entrée, moi j'ai remarqué, ça fait une quinzaine d'années que je fais ce métier de coach, c'est qu'en entreprise, les gens rencontrent surtout le travail comme un lieu de souffrance. Le point d'entrée, c'est plutôt ce qui va pas. Ça fonctionne, mais c'est pas vivant. Et c'est un peu dans les interstices entre le fonctionnement et les moments vraiment vivants, les moments où on est exalté, les moments où les choses se passent de façon fluide, c'est dans cet intervalle qu'on peut rencontrer la pleine conscience.
D'accord, oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le sujet de notre émission, ça va être le travail, mais la pleine conscience au travail. Alors, vous demandez peut-être ce que c'est que la pleine conscience. C'est un mot qu'on utilise assez souvent en ce moment, qui est un petit peu dans l'air du temps, je dirais, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous résumer et puis on y reviendra au cours de l'émission, bien sûr.
C'est un corpus de pratiques et c'est un ensemble de disciplines. Le vocable pleine conscience, il recouvre des choses aussi variées que la méditation, le soin du corps, la capacité d'être attentif à ce qui se passe et puis la célébration du moment présent. Donc on va retrouver ça aussi bien dans des pratiques d'inspiration bouddhiste en particulier, avec Thich Nhat Hanh notamment, qui est un grand bouddhiste vietnamien. On va le retrouver aussi dans des approches plus opérationnelles de gestion du stress, de réduction du stress par des pratiques de respiration. Vous connaissez sans doute les travaux de Jon Kabat-Zinn qui ont été vulgarisés grâce à Bernard Giraudot. Et puis plus près de nous, tout ce que Christophe André a fait connaître. Donc moi j'avais envie de rendre hommage un peu à toutes ces pratiques qui nous font du bien dans la vie et pourquoi pas dans la vie professionnelle.
Alors c'est vrai qu'il y a eu déjà pas mal de livres qui ont été publiés à ce sujet au cours des dernières années, comme vous disiez, Jon Kabat-Zinn, Christophe André et autres. Mais c'est la première fois, je crois, qu'on publie un livre sur la pleine conscience dans le monde du travail.
En France, en tout cas, oui, en langue française. Moi, c'est quelque chose qui ne cesse de m'interroger. C'est qu'on passe allez, 60-70% de notre temps d'éveil au travail, et souvent on n'en prend pas soin. On fait comme si c'était un espace automatique, un espace dans lequel on fonctionne, un gagne-pain. Moi, il y a un matin, je me suis réveillé il y a quelques années en me disant je vais quand même pas perdre mon temps à le gagner. Donc pouvoir se reposer la question de sa motivation, de son aspiration, de ce qui nous fait vivre professionnellement me paraît important. Une des idées que j'ai eues, c'est quelle est ma vocation, quoi. Je crois que beaucoup de gens qui viennent au coaching et qui viennent à la pleine conscience plus généralement se posent à un moment donné la question de leur vocation, et de leur vocation professionnelle bien sûr.
C'est vrai que c'est souvent une question qui se pose soit au début de sa vie professionnelle quand on fait des choix, mais peut-être encore plus encore lorsqu'on approche de la quarantaine parfois et qu'on fait un premier point sur sa vie professionnelle en se demandant si c'est vraiment ça qu'on voulait faire, si on poursuit dans cette voie ou si au contraire on change d'orientation, hein, puisque les changements sont de plus en plus fréquents aussi dans notre société où on n'a plus des parcours linéaires comme on pouvait en avoir il y a 20, 30 ou 50 ans.
C'est vrai, moi je rencontre des gens qui vivent leur carrière professionnelle un peu en mode mineur, c'est-à-dire je crois qu'aujourd'hui construire une carrière c'est vraiment un enterrement de première classe. On peut plus envisager la carrière comme ayant un point de départ et un point d'aboutissement. C'est l'imprévu, c'est souvent d'accueillir des épreuves, des changements d'orientation qu'on n'a pas voulu, des désillusions. On parle des désillusions dans ce livre parce que je trouve que perdre ses illusions, c'est une très bonne nouvelle et on n'y est pas préparé. Je suis très frappé de voir qu'on est habitué, je disais tout à l'heure, à fonctionner professionnellement. Fonctionner, c'est avoir un ordinateur, avoir des outils de communication performants, être omniprésent. Pour les managers, parfois c'est être omnipotent, être omniscient. Ça, c'est une très grande illusion. Et quand cette illusion s'effondre, et elle s'effondre toujours un jour, alors vous avez raison Isabelle, parfois c'est avec la retraite, mais moi mon intuition c'est que c'est de plus en plus tôt. On vit ces désillusions bien plus tôt dans la carrière, quand un projet s'arrête, quand on est face à une création d'entreprise qui marche pas, quand on vit dans une entreprise qui est rachetée par un concurrent. C'est des moments très douloureux. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut se poser des questions plus essentielles. Hein. Qu'est-ce qui me fait me lever le matin, voilà. Et qu'est-ce qui me donne du plaisir? Si je vais travailler dans une logique d'effort, de souffrance, de labeur, de devoir, je ne fais que perpétuer ce mythe judéo-chrétien qu'on connaît bien et qui me semble pas très... voilà, pas très positif.
Alors c'est vrai qu'il faut dire aussi que les entreprises sont, je dirais, peut-être de moins en moins confortables. On est quand même confronté à une pression qui est très très importante. Enfin, quand on a la chance d'avoir un travail, hein, ce qui est pas le cas de tout le monde. Malheureusement, il y a de plus en plus de gens aussi qui sont soit hors du monde du travail et qui, eux, ont du temps, et ceux qui travaillent par contre travaillent de plus en plus et de plus en plus sous pression, et donc il y a une espèce d'inégalité qui se crée. Donc vous pensez que même en étant dans l'entreprise, c'est encore possible de dire non à ce rythme infernal et de prendre un peu de recul pour se poser et puis prendre le temps de voir si c'est vraiment ça qui vous convient?
En général, c'est la crise qui nous amène à faire ça. C'est en général justement cette crise dont vous parlez qui nous amène à faire des arrêts sur image, à sortir de cette urgence. Le meilleur moyen de pas être présent, c'est d'être dans l'urgence. Parce que quand je suis dans l'urgence, je suis dans le futur, je suis dans le passé, mais je suis jamais dans le moment présent, ici, maintenant. C'est vrai qu'il y a un paradoxe incroyable, c'est que les personnes que je croise en entreprise rêvent que ça s'arrête. Rêvent d'en sortir parce qu'elles sont épuisées, parce que ça n'a plus beaucoup de sens pour elles. Et à côté de ça, vous avez raison de souligner qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien monter à bord du train de l'entreprise. Je me dis que ce chassé-croisé, il nous questionne, quoi. On a quand même quelque chose à en faire. Et moi, ce que j'observe, et c'est ce que j'ai voulu décrire dans ce livre, c'est qu'il y a plein de pratiques simples, plein d'outils qui sont à notre portée, qu'on utilise dans la vie privée, qu'on utilise quand on médite, qu'on utilise quand on fait du yoga, qu'on utilise quand on prend soin de soi d'une manière générale, et qu'on pourrait aussi utiliser quand il s'agit de se motiver professionnellement.
Oui, donc on va essayer de voir un petit peu ensemble au fil de cette émission, justement, comment on peut faire pour être mieux dans son travail, hein. Même, on va dire, ce livre, il concerne aussi peut-être les gens qui travaillent chez eux. C'est pas forcément des gens qui sont en entreprise, puisqu'on a de plus en plus d'indépendants également.
Complètement.
Donc ça peut s'appliquer à tous, j'imagine.
Ah oui, mais je crois qu'on est de plus en plus dans des entreprises virtuelles. Même quand on est au travail dans un lieu soi-disant collectif, je suis très frappé de voir que chacun est isolé. Les gens sont excessivement seuls dans leur travail. J'avais hier un client qui me racontait que dans son équipe, et c'est des ressources humaines, c'est ça l'ironie, à deux bureaux d'intervalle, les gens s'envoient des emails au lieu de venir se voir. Donc vous voyez que même quand on travaille à la maison, parfois on est peut-être plus proche de soi et plus proche des autres que quand on est dans un...
Oui, parce que paradoxalement, plus on est nombreux dans un bureau, moins on veut déranger les autres. Et donc au lieu d'aller parler à la personne, quand il y a 10 personnes qui écoutent autour, eh bien on lui envoie un mail et voilà, c'est comme ça que le contact finalement diminue. Bon, bah écoutez, on va essayer de voir tout ça ensemble. Donc déjà, aussi parler bien sûr de pleine conscience dans la vie privée, hein, puisque c'est tout ça, c'est lié. Hein, il n'y a pas une barrière étanche entre le travail et la vie privée, et puis l'un alimente l'autre. Et puis on va voir aussi un petit peu comment vous travaillez, vous, comment vous aidez vos étudiants hein, dans votre enseignement, comment vous travaillez en coaching avec des cadres dirigeants ou d'autres, des équipes peut-être. Et puis essayer de nous donner peut-être des petits trucs pratiques hein, qui peuvent nous permettre de se lancer, quoi, d'avoir un petit peu une première impression de ce que c'est que cette pleine conscience. Voilà. Alors c'est quelque chose qui, dans les entreprises, je pense ça démarre, hein, parce que je faisais une émission avec la Cegos récemment, donc sur tout ce qui est développement personnel en entreprise, qui bouge pas mal, mais je pense que la pleine conscience, c'est encore un petit peu au début, non ?
Oui, disons que ça reste une pratique un peu clandestine en France. On est un pays très cartésien. Tout ce qui concerne le corps, l'esprit et pas seulement le mental peut être encore entouré d'un certain nombre de mystères. Et puis ressort de la vie privée. Vous avez raison de dire que c'est pas étanche. Moi, je suis très frappé de voir que la pleine conscience, ça commence déjà par découvrir qu'on a un monde intérieur, qu'on n'est pas seulement dans ce qu'on fait. Prendre conscience de l'écart entre qui on est et ce qu'on fait, c'est déjà un point de départ. Et très souvent, on est à 100% dans ce qu'on fait dans la vie professionnelle. Donc, ça démarre. Moi, j'observe beaucoup de gens qui viennent dans mon bureau, dans mon cabinet, en ayant déjà exploré, soit par des lectures, soit par des stages, des travaux de pleine conscience.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots pour commencer sur votre parcours personnel à vous ? Je crois que vous avez commencé dans le monde de l'entreprise, vous en êtes sorti pour faire complètement autre chose. Quel a été votre parcours et quelles ont été vos motivations ?
Alors moi, je suis venu à l'entreprise un peu parce que c'était un parcours linéaire. J'avais fait des classes prépa dans un bon lycée, j'ai fait une bonne école de commerce. Je m'étais pas posé vraiment la question à l'époque de ce que j'ai envie de faire. Je voulais être médecin, je voulais être pédiatre ou gynéco. Donc je me dis souvent que être coach, c'est encore être un peu pédiatre ou gynéco en entreprise. Et puis voilà, quoi. Arrivé en école de commerce, j'ai vraiment vu... le vide sidéral en termes de sens qu'il pouvait y avoir dans le monde du travail. Ça me parlait pas du tout le marketing, ça me parlait pas du tout la finance, ça me parlait pas du tout la compta. Je trouvais ça pas nourrissant. En tout cas, j'étais pas du tout confortable avec ça. Donc voilà, l'entreprise, je l'ai pris comme un théâtre, comme un écran sur lequel on projette des choses. Beaucoup de films. Je pense que chacun a une conception de l'entreprise qui lui est propre hein, aujourd'hui. Pour certains, c'est les pages saumon d'un journal économique. Pour d'autres, c'est un lieu de rencontre. Pour d'autres encore, c'est un endroit où on produit de la richesse. Voilà. Après, j'ai travaillé dans l'industrie, chez Alstom. J'ai travaillé à la SNCF. J'ai travaillé en recherche autour de la Poste, donc dans le secteur public. Et puis, j'ai découvert le monde du conseil. J'ai vu qu'on pouvait écouter les autres. Moi, je crois que ma vocation, c'est d'être une éponge. Donc je préfère écouter que parler, ce qui est un paradoxe pour moi cet après-midi.
C'est une épreuve alors pour vous aujourd'hui.
Oui, c'est un, on va dire que c'est un exercice de pleine conscience. Ça m'amène à être présent à vous et à moi. Mais en même temps, voilà, j'ai appris aussi que c'était plaisant de transmettre. Moi, ça fait longtemps que j'enseigne. Et que j'enseigne quoi ? J'enseigne la possibilité d'être fragile. Moi, j'ai vraiment découvert qu'on pouvait être fragile Et non seulement
le droit d'être fragile aussi.
Hein. Ouais, le droit d'être fragile. Que la vraie puissance en entreprise, c'est d'être fragile, c'est de connaître ses fragilités. Je crois que le mythe du héros tout puissant, masculin, qui gagne, qui a réponse à tout, il s'est vraiment effondré dans les années 90. Enfin, on voit bien ce que sont devenus les traders des années 90. Donc voilà, j'ai demandé l'asile poétique, moi. J'ai demandé l'asile poétique dans le coaching.
Ouais.
Et ça fait 15 ans que je fais ce métier, en partageant ma vie entre rencontrer des managers qui viennent, qui viennent essayer de trouver des clés pour donner du sens à leur vie. Moi, je crois que chacun peut se motiver. La vraie question, c'est de trouver son moteur intérieur, de trouver sa vocation. Je dis souvent qu'en entreprise, on est occupé. Et être en entreprise, c'est laisser sonner occupé. La vocation, c'est quand on répond, quand on décroche, quand on entend la voix qui nous dit, regarde le lien entre tout ce que t'as fait dans ta vie, il y a bien quelque chose qui fait sens, il y a bien quelque chose depuis ta petite enfance qui te raconte la même histoire. C'est sortir des histoires qu'on se raconte, parce que c'est grisant, pour rencontrer la grande histoire, ce à quoi on est appelé. Donc moi, j'ai l'impression d'avoir rencontré ma vocation dans le coaching, enfin jusqu'à nouvel ordre.
Ok, super. Bon, on va faire une première pause musicale. Vous avez choisi une musique qui vous plaît, qui vous parle?
Oui, j'ai amené avec moi Benjamin Biolay. Benjamin Biolay, il a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Ton héritage et qui nous parle de la possibilité de sortir de la reproduction. On a tendance à faire pareil. Bah, je crois qu'on peut faire différent, notamment grâce au coaching.
Ok, on écoute.
Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps. Si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ce n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage. Si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs. Si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants. Si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan. Si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse en plan. Si tu as peur du sommeil et que passe le temps. Si tu aimes l'automne vermeil, merveille, Oh, je sens si tu as peur de la foule, mais supporte les gens. Si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans, et si tout se déroule jamais comme dans tes plans, si tu n'es qu'une pierre qui roule, roule mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Mon enfant.
En Ile-de-France.
En Ile-de-France.
Vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98FM.
Voilà, c'était une bien jolie chanson de Benjamin Biolay, choisie par mon invité d'aujourd'hui, Thierry Chavel. Donc, vous êtes sur IDFM et je vous invite à poser des questions si vous le souhaitez. Donc, si vous avez des questions sur la méditation, la pleine conscience ou sur le travail, comment être... bien mieux dans son travail, comment trouver sa vocation, enfin tout ce qui tourne autour de d'un travail de qualité, on va dire, bah, n'hésitez pas à nous appeler dans le studio, donc au 01 34 12 12 22. Vous pouvez aussi m'écrire après l'émission si vous le souhaitez. Donc mon adresse email c'est i.gonse@free.fr, ou vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Voilà. Donc voilà qui est dit, on attend vos questions et je reviens vers mon invité Thierry Chavel. Alors, sur votre livre, donc La pleine conscience, il est organisé en 22 chapitres. C'est des chapitres qui à chaque fois abordent un autre aspect des choses, comme par exemple être présent à soi avant de plonger dans son travail. J'ai envie de vous demander pourquoi 22? Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que ça a une signification, ce nombre 22?
C'est une belle question. C'est une question qu'on m'a pas beaucoup posée, pour être franc. Pour moi, tout fait signe et tout fait sens. Donc, il n'y a pas de hasard, effectivement. L'idée de 22 chapitres, ça m'est venue avec le sentiment que la vie professionnelle, ça pouvait être vu aussi comme un parcours initiatique, à la rencontre peut-être de sa vocation, enfin, comme un puzzle qui se compose au fur et à mesure. À notre insu, évidemment, tout ça est très inconscient. Et le chiffre 22 est un chiffre qui, dans beaucoup de traditions, est porteur de sens, est porteur d'une symbolique très forte. On peut citer par exemple le tarot. Vous savez qu'il y a 22 arcanes majeures qui sont vraiment autant d'étapes, autant d'épreuves dans un chemin de vie. Et puis on a aussi la Kabbale, puisqu'il y a 22 lettres hébraïques. Donc j'avais trouvé ça assez inspirant de se référer à des canons de sens, puisque le monde du travail, on est un peu comme le petit pousset, hein, on égrène des petits cailloux. Et comme je disais tout à l'heure, c'est dans l'interstice des tâches qu'on a à accomplir qu'on peut retrouver le sens. Donc c'est sûrement pas sur nos logiciels, c'est sûrement pas sur nos tableaux de bord, c'est sûrement pas sur toutes les tâches qu'on a à accomplir qu'on va trouver du sens. C'est dans des petits espaces comme ça, et je pense que ces 22 chapitres, c'est comme des îlots de sens.
Alors, ce livre est organisé effectivement en 22 chapitres qui peuvent être lus de façon indépendante. Hein. On peut les prendre un petit peu dans le désordre si on le souhaite. Donc, se laisser aller à son inspiration et piocher là-dedans. Et il se veut très pratique puisqu'à la fin de chaque chapitre, vous avez un petit questionnaire. Enfin, un questionnaire. 2, 3, 4 questions un petit peu essentielles qu'on peut se poser pour voir si on a... voilà, comment le chapitre résonne en vous-même. Donc, on les abordera au fil de l'émission. Alors, vous commencez votre livre dans le premier chapitre en disant qu'il faut être présent à soi avant de plonger dans son travail pour ne pas travailler comme un automate. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, être présent à soi avant d'aller au travail? Comment vous pourriez nous...
Vous savez, la pleine conscience, c'est vraiment la discipline de la présence. Il y a un auteur canadien, américain de langue qui s'appelle Eckhart Tolle, qui dit que le meilleur moyen d'être présent, c'est d'avoir conscience des moments où on ne l'est pas. C'est plus dans les moments d'absence, dans les moments d'automatisme, comme vous dites. Est-ce que je pense à ce que je fais quand je mets la clé dans de contact dans ma voiture? Est-ce que j'ai vraiment regardé les stations quand j'ai pris le train ou le métro ce matin? Pas forcément. Je suis pas en conscience dans ces moments-là. Un moyen d'être présent à soi avant d'être présent aux autres, c'est la respiration. On est tous dépositaires d'un instrument de pleine conscience qui coûte rien du tout et qui s'appelle notre colonne de souffle. Donc déjà, être à l'écoute du bruit intérieur par la respiration. Si concrètement, si je me concentre sur ma respiration, sur l'inspire et l'expire, dans le ventre, dans la cage thoracique ou dans la gorge, où je veux, je vais me rendre compte de toutes les pensées qui m'assaillent. Je vais me rendre compte que je ne suis pas dans le silence. Je suis en permanence dans un bruit qui est le bruit de mon mental. À tout instant, je pense à un milliard de choses. Déjà, prendre conscience de ça, prendre conscience de cette noise, hein, de ce bruit, comme disait Michel Serres, c'est un moyen de m'apaiser. Ça a un effet thermostat, c'est-à-dire que le fait même de centrer son attention sur sa respiration va ralentir la respiration. C'est magique.
Ça va ralentir les pensées aussi. Ça va permettre d'éliminer un petit peu toutes ces pensées qui sont parfois parasites.
Je crois pas que ça les élimine, malheureusement. En tout cas, ça va les faire remonter à la surface. Le problème de nos pensées, c'est quand elles nous agissent. Vous savez, en France, on aime beaucoup Descartes, je disais tout à l'heure, et Descartes, il a dit « je pense, donc je suis ». Moi, je crois avec la pleine conscience à l'exact inverse. C'est-à-dire « je suis, donc je pense ». La pensée vient après. Et donc, si je me laisse agir par mes pensées, je suis encore une fois un automate. C'est-à-dire que je vais fonctionner sans m'en rendre compte comme un ordinateur qui en tâche de fond fait plein d'opérations et qui nous ralentit. On a bien souvent le sentiment que à l'écran il y a ce petit sablier qui est ralenti. Et ben voilà, nos pensées, le fait qu'elles remontent à la surface, on va découvrir un petit peu d'abord l'occurrence. Tiens, quelles sont les pensées qui viennent le plus souvent? Je sais pas vous, mais moi, les pensées les plus fréquentes, c'est souvent des pensées parasites, effectivement, des pensées négatives, des croyances qui me limitent. J'y arriverai jamais. Ce manager même pas.
Des hypothèses
limitantes, voilà. Et toutes ces hypothèses me fabriquent en fait une cellule dans laquelle je m'enferme au fur et à mesure. Donc, par la pleine conscience, mais par plein d'autres pratiques, mais notamment par la pleine conscience, je vais petit à petit enlever la buée sur mes lunettes. Je vais voir quelles sont les pensées qui m'empêchent d'être là, ici, maintenant.
Donc la respiration, bon, on va dire, ça peut être à la portée de tout le monde, peut-être. On se prend quoi, 5 minutes, 10 minutes, assis, debout, couché, pour se concentrer sur sa respiration.
Coucher, c'est pas recommandé parce qu'au début, il y a un risque de somnolence.
Ah, oui.
Sauf si on est, si on est un grand praticien de sophrologie. assis ou debout. En tout cas, dans une posture digne. Tous les auteurs de pleine conscience parlent d'une position digne, c'est-à-dire ni trop raide, ni trop avachie. On peut avoir les yeux mi-clos. Et c'est surtout de créer un espace hors du temps. Ça paraît paradoxal, mais le moment présent, c'est un moment qui rejoint l'éternité. Quand je suis vraiment présent, à l'instant présent, c'est-à-dire ici, maintenant, ce vendredi, avec vous, dans le studio d'IDFM à 14h bientôt 30, je suis pas ailleurs. Je suis juste là avec ce qui se passe dans mon corps, avec ce qui se passe dans ma tête, avec ce qui se passe en termes d'émotions. Et dans cet instant-là, eh ben, le temps se dilate. On fait tous l'expérience de ces petits moments-là, en général dans des fêtes ou souvent aussi dans des moments plus douloureux de la vie. Moi, j'ai un client qui me disait, j'ai fait l'expérience de la pleine conscience fin décembre aux urgences de l'hôpital Lariboisière. J'ai été emmené en urgence parce que j'avais un problème cardiaque. C'est un client qui a 60 ans. Et il me dit, voilà, le silence qu'il y avait dans ma chambre, je pouvais pas avoir mon BlackBerry, je pouvais pas avoir mon téléphone portable. J'étais forcément face à moi-même. Et il me dit, voilà, ça m'a vraiment confronté à ce qui était essentiel, à mes peurs. Ça peut être vertigineux, mais en même temps, c'est des moments sacrés.
À cultiver. Alors, il y a un autre moyen, je crois, d'être dans la pleine conscience, c'est d'essayer de faire une seule chose en même, à la fois, non pas en même temps, une seule chose à la fois, et de penser vraiment à ce qu'on fait. Par exemple, on mange et on se concentre sur la sensation de ce que l'on mange, des odeurs, des saveurs, sans regarder la télé en même temps, sans faire autre chose en même temps.
Oui, exactement. Moi, je crois que la pleine conscience, c'est dans les petites choses qu'on peut la rencontrer, pas dans les grandes choses. Parce que dans les grandes choses, on est justement assailli par plein d'enjeux. Et c'est notre ego qui est derrière. Hein. C'est vraiment l'envie de faire bonne figure, de répondre aux attentes des autres. Quand je suis vraiment à l'écoute de mon monde intérieur, c'est dans les toutes petites choses. Thich Nhat Hanh a beaucoup rendu populaire la notion de marche en pleine conscience. C'est-à-dire d'une marche assez lente dans laquelle j'ai vraiment conscience de mon pied qui se déroule, du pas. Alors vous allez me dire, dans le monde du travail, comment on peut, dans les petites choses, être attentif? Et bah, par exemple, à la machine à café. Moi, je suis très frappé de voir qu'à l'occasion des gains de productivité, des réductions d'effectifs, on a supprimé tous les temps morts. Tous les temps dans lesquels on prenait le soin d'accueillir ses collègues, de dire bonjour en regardant dans les yeux, en prenant le temps vraiment de souhaiter une bonne journée à l'autre. Tous ces petits temps morts sont en fait des temps vivants. Et moi, je rencontre beaucoup de morts vivants en entreprise. Je sais pas ce qu'en pensent les auditeurs, mais je suis frappé de voir qu'on est davantage vivant dans les temps morts que dans les temps soi-disant actifs. C'est d'abord dans un état, oui, de contemplation, de l'instant, de prendre un café en appréciant le café, en appréciant le moment partagé avec autrui, ou de le prendre tout seul. Ça peut être aussi dans des espaces de recueillement. Eh bien, à ce moment-là, on va être beaucoup plus au contact de ce qui nous est vrai, quoi, de ce qui nous est pas si familier que ça.
D'accord. Alors, c'est pas toujours facile dans une entreprise. En pratique, on est quand même confronté parfois à 36 choses en même temps, le mail, le téléphone, les réunions, plusieurs dans le bureau. Enfin, comment faire quand même pour se ménager ces petits espaces de tranquillité, enfin, pour sortir un petit peu de cette hyperactivité?
C'est vrai que c'est pas facile parce que je crois que plus on est connecté, plus on a la tentation d'être addict. Je rencontre beaucoup de gens en entreprise qui en fait sont accros à leur nouvelle technologie, peuvent pas lâcher leur outil de connexion à distance. Hein. C'est à la fois des outils très plaisants parce qu'ils nous permettent de communiquer en temps soi-disant réel. Je sais pas bien ce qu'est le temps réel, hein, pour moi. C'est un temps très virtuel, ce temps-là. Donc on gagne du temps, mais en même temps, on perd de la qualité de présence. Donc moi, je crois qu'il y a deux façons de faire. La première, c'est délibérément, en se sevrant volontairement, en éteignant son téléphone. Moi, je connais des gens qui ont du mal à débrancher, même pendant les vacances.
Il y en a beaucoup, hein. Les week-ends, les soirées.
Si j'explore deux secondes, la partie de moi qui n'arrive pas à débrancher, c'est la partie qui se croit indispensable. Et qu'une des grandes illusions du mental, c'est de croire que quand on n'est pas là, les choses s'arrêtent. C'est pas vrai, voilà, on peut faire l'expérience de mon client d'être hospitalisé. Pendant ce temps-là, le monde s'est pas arrêté de tourner, donc ne pas en arriver là, c'est pas mal. En débranchant délibérément, en vivant souvent des pannes. Moi, je suis très frappé de voir comment c'est quand ça ne marche pas. Tout ce système très bien huilé de la vie professionnelle avec ses outils, ses réunions où on n'est pas présent en fait. Hein. On enquille des réunions, mais où on est comme un robot qui exécute une partition. Et ben, quand ces trucs-là tombent en panne, et ils tombent toujours en panne parce que tous les systèmes mécaniques sont faits pour tomber en panne. La technologie est faite pour nous trahir. Elle n'est pas faite pour nous garantir cette confiance absolue. Et ben dans ces moments-là, on peut rencontrer la pleine conscience. Après, malheureusement, je rencontre aussi des gens qui font l'expérience de débrancher à leur corps défendant, en ayant un pépin, en étant souffrant. J'avais ce matin au téléphone un client qui a pas pu venir hier. Il est directeur dans un établissement médico-social et il me dit bon, j'étais au fond de mon lit, mais enfin le soir, je suis quand même allé à une réunion importante parce qu'il fallait que je sois là. Bon voilà, ça tombe bien que je le vois dans 8 jours parce que je suis pas sûr que c'était si important. Prendre soin de lui, ça aurait peut-être été beaucoup plus important. Envoyer comme signal qu'il pouvait être absent tout en étant présent. Vous savez, il y a des gens absents qui sont bien plus utiles que quand ils sont physiquement là. De vous à moi, c'est une affection qui est plus répandue chez les hommes que chez les femmes, la tentation d'être partout. Je crois que les hommes ont assez tendance à vouloir être présents sur tous les fronts et il y a probablement une faculté plus grande d'être présent à ce qu'on fait, à ce qu'on est quand on est une femme. Je sais pas, je m'en remets à vous, Isabelle.
Je sais pas non plus. C'est un point de vue. Alors, dans le chapitre 4 de votre livre, vous abordez le sujet de la satiété. Satiété, je sais pas comment on dit, satiété.
Satiété.
Apprivoiser la satiété. Et vous proposez, vous dites, être, avoir et faire, ce n'est pas la même chose. Être n'est pas égal à faire. Et avoir n'est pas égal à être. Et l'équilibre est quelque part au milieu de tout ça, de ce triangle. Hein. Vous
Absolument.
Proposez aussi de classer, je crois, dans ce que l'on fait dans sa vie, tout ce qui relève de l'être et tout ce qui relève du faire, et tout ce qui relève de l'avoir aussi peut-être, pour essayer de voir ce qui est le plus important et puis de ne pas tout mélanger en fait.
Oui, ouais. Moi je crois qu'une des grandes difficultés qu'on éprouve aujourd'hui dans notre travail, quel qu'il soit, c'est qu'on a confondu l'être et le faire. Beaucoup de gens se prennent pour ce qu'ils font. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans la société actuelle, quand on demande à quelqu'un, la première chose, la première question qu'on lui pose, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Donc ça, c'est vraiment le règne de la quantité. Plus j'en fais, plus j'en ai, et plus j'en ai, plus j'ai l'illusion d'être important. Ça, je crois que tous celles et ceux d'entre nous qui avons expérimenté, encore une fois, la perte d'un emploi ou un moment difficile dans la vie et où on peut plus faire semblant d'être dans la routine, on s'aperçoit que c'est un miroir aux alouettes, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus que ce que l'on fait. Le triangle est déséquilibré. Le but est probablement qu'il soit équilatéral, c'est-à-dire que il y a un temps pour tout. Je crois que jusqu'ici, vers 20-30 ans, les personnes en entreprise cultivaient beaucoup le faire. Il faut faire des études, il faut faire ses preuves. De 20 à 30 ans, on est vraiment dans la phase où on fait ses gammes, quelque part. Après, de 30 à 50 ans, on était dans l'avoir. Avoir un statut, avoir un poste stable, hein, cette espèce de mythe, de, comme vous disiez tout à l'heure, de la carrière dans une seule et même entreprise. C'était vraiment quand on était cadre qu'on le vivait de la façon la plus épanouie. Avoir une image favorable, c'est aussi de l'ordre de l'avoir, l'image, hein, donc avoir le sentiment d'accumuler aussi un patrimoine. Et puis de 50 à 65 ans et plus, on était dans l'être, hein, c'était vraiment le moment de la transmission, dans le moment où on était davantage dans le passage de relais à d'autres. Moi, ce que j'observe, c'est que ces trois étapes, on les vit aujourd'hui en accéléré. C'est-à-dire que je vois arriver dans mon bureau des gens qui, à 30 ans, ont déjà écumé l'illusion de faire, d'avoir, et se posent des questions de l'ordre de l'être à 35 ans, sauf qu'ils n'y sont pas préparés.
C'est plutôt une bonne chose, non ? C'est plutôt une tendance positive ?
C'est une tendance positive à condition qu'on n'attende pas de faire un burn-out pour se poser cette question-là. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'attende pas que le corps crie, que l'épuisement vienne à notre porte pour se rendre compte qu'on est plus que ce que l'on fait.
Mmh. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que tout au long de sa vie, on ait une vie un petit peu équilibrée entre ces trois aspects et que l'être se développe plus vite.
Oui, je crois que de ce point de vue, la pensée orientale et la philosophie du temps qu'il y a en Orient peut nous aider d'aller aussi à la rencontre de la vie après la vie au travail. Je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'abîment dans une vie professionnelle et qui passent toute leur énergie et qui se réveillent un matin en ayant mis tous leurs œufs dans un même panier, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare d'avoir des personnes qui sont un peu dans le syndrome d'Icare. Vous savez, ce héros grec hein, qui était enfermé dans le labyrinthe, qui pour échapper au Minotaure demande à Dédale de lui mettre des ailes. Hein. C'était une belle métaphore de la tentation de se libérer par le travail. Sauf que les ailes, elles étaient collées par de la cire et qu'il s'est rapproché du soleil et que donc il est tombé. Voilà. Souvent, moi, je rencontre des gens qui font comme si les ailes étaient rivées pour toujours. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui est là pour toujours dans la vie professionnelle. Et la pleine conscience est là pour nous le rappeler.
Ok, on va refaire une pause musicale avec cette fois-ci votre deuxième choix qui est...
Leonard Cohen.
Leonard Cohen.
Alors Leonard Cohen, on pourrait écouter beaucoup de choses de lui. Je crois que c'est en même temps un bel exemple de la place de la méditation dans la vie et surtout de la place de la transcendance. C'est une chanson sur la capacité de s'abandonner à plus grand que soi.
Ok, on écoute.
If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before,
I will speak no more. I shall abide until I am spoken for, if it be your will. If it be your will, let a voice be true from this broken hill. I will sing to you from this broken hill. All your praises they shall ring, if it be your will to let me sing.
Sur 98FM.
Voilà, nous sommes avec Thierry Chavel aujourd'hui et nous parlons de pleine conscience, notamment pleine conscience au travail. Alors je vous redis que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous appeler au 01 34 12 12 22 et Thierry Chavel se fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez un témoignage aussi, n'hésitez pas à appeler donc pour nous en faire part. Voilà, donc on parle toujours de votre livre, La pleine conscience pour travailler en se faisant du bien. Alors dans votre livre, vous parlez aussi pas mal de la question de la vocation professionnelle, l'importance de trouver sa vocation. Alors est-ce qu'on a vraiment tous une vocation professionnelle? Est-ce que c'est facile de la trouver? Est-ce qu'on la trouve parfois tardivement aussi? Comment ça se passe?
Oh, c'est beaucoup de questions en une.
Ah oui.
je crois que c'est la grande oubliée de notre rapport au travail au 21e siècle, la vocation. La pleine conscience professionnelle, c'est d'abord de retrouver la conscience professionnelle. Vous savez, on a développé des systèmes d'experts, des systèmes d'intelligence artificielle, de mesure des compétences, de mesure des performances, de plus en plus individuelles. On est capable d'évaluer les gens dans tous les sens, sous toutes les coutures, pour en oublier que la première des motivations, c'est de bien faire son travail. Je suis convaincu que chacun des auditeurs a un jour contacté le sentiment de la belle ouvrage, le sentiment de plénitude qu'on a quand on a le sentiment que le geste en lui-même est juste. Alors vous allez me dire, chez les artisans, c'est évident. Oui, les artisans sont au contact de ce geste qu'ils ont appris, souvent qu'ils ont appris par tradition orale, par compagnonnage, des choses qui s'enseignent pas. Mais je crois que ça n'est pas vrai que pour les artisans. On peut retrouver un chemin vers cette conscience professionnelle. Le fait de bien travailler, c'est d'avoir le sentiment de contribuer à quelque chose de beau. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard dans l'émission. Alors, est-ce que c'est facile de rencontrer sa vocation? Je pourrais pas faire de généralité. Je pense que la vocation, elle nous vient par plein de petits signaux. Il y a un mot un peu compliqué, mais qui désigne quelque chose de très simple à ce sujet, c'est la sérendipité. La sérendipité, c'est le fait de trouver quelque chose en cherchant autre chose. Les scientifiques connaissent ça très bien.
Un peu le hasard.
Alors voilà, c'est
sans être totalement du hasard.
Voilà, vous savez ce que disait Albert Einstein. Il disait le hasard, c'est le nom qu'on donne quand Dieu joue au dé, quoi. Donc c'est en tout cas quelque chose qui échappe à notre entendement. Certains vont appeler ça leur ange gardien, d'autres vont appeler ça une série de signes. C'est voilà Newton qui découvre la gravitation en cherchant autre chose. C'est toutes ces découvertes qu'on fait en cherchant ailleurs. Et moi, je crois que cultiver cette faculté d'attention, la pleine conscience en anglais, c'est mindfulness, mais c'est aussi awareness, c'est-à-dire la capacité de faire attention à notre environnement et à regarder de façon défocalisée, à regarder dans un halo, comme quand on conduit une voiture. On regarde pas le panneau, on regarde pas le feu rouge, sinon on rentrerait dedans. On regarde un petit peu au-delà. Donc pour rencontrer sa vocation, c'est déjà de se laisser un peu porter par tous les signes qui nous environnent. Quels ont été les moments de grande fluidité dans ma vie professionnelle? Quels ont été les moments de réussite où les choses se sont faites presque facilement? Un peu comme on est en période hivernale, donc un peu comme quand on fait du ski ou du snowboard. Vous savez, on a parfois la sensation d'épouser tellement la piste qu'on sait plus très bien si c'est nous qui descendons la piste ou si c'est la montagne qui se déroule sous nos pieds. C'est des espèces de moments un peu d'abandon. Alors là encore, moi je les appelle de pleine conscience parce qu'on se dilue dans l'espace et dans le temps. Autre question qu'on peut se poser pour rencontrer sa vocation, c'est est-ce que j'ai vraiment choisi le parcours que je fais? Alors ça peut être assez abyssal. Est-ce que je fais ça parce que mes parents m'ont dit de faire ça? Est-ce que je fais ce métier parce que c'est alimentaire? Et si je faisais pas ce métier pour des raisons alimentaires, qu'est-ce que je ferais d'autre? J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens pour qui une démission, voire un licenciement, s'est avérée une divine surprise. Parce que ça a été l'occasion pour eux de se poser des questions qui se seraient jamais posées dans le confort, entre guillemets, de la vie professionnelle courante, de la monotonie. Et qui, à cette occasion, ont refait des études, ont ouvert un resto, ont monté un business qui leur plaisait avec des amis. Alors, ça veut pas dire que c'est voué toujours au succès, ça veut pas dire que le chemin ne sera pas semé d'embûches. Mais en tout cas, ils vont éprouver ce que j'appelle la vocation, c'est-à-dire quelque chose qui nous appelle. Hein. Vous savez qu'en allemand, puisque c'est Max Weber, qui est un des grands théoriciens de la conscience professionnelle, était allemand, le mot profession se dit Beruf, et le mot vocation se dit Berufung.
Berufen, c'est appeler en allemand.
Exactement.
Ouais, être appelé à quelque chose.
Voilà, donc être appelé à quelque chose, encore faut-il écouter. La première des facultés dont on a besoin en pleine conscience, c'est pour ça qu'on parlait de la respiration tout à l'heure, c'est de l'écoute avant de parler. Et moi je suis très bavard cet après-midi, mais il faudrait plutôt écouter notre cœur pour répondre à la question de la vocation que de parler.
Être à l'écoute des petits signaux, être à l'écoute de... Être ouvert aussi, ouvert, réceptif à ce qui peut se présenter et conscient de ce dans quoi on est bien, dans ce qui vous correspond, dans ce qui fait le fil rouge aussi de votre... comme vous disiez tout à l'heure, tous les petits moments où on a pu se sentir bien dans sa carrière, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Est-ce que c'est parce qu'on aide les autres? Est-ce que c'est parce qu'on est en première ligne? Est-ce que c'est parce qu'on se plonge dans un problème, compliqué d'un point de vue intellectuel? Enfin, chacun a ses... Ces attirances. Hein.
Oui, j'aime beaucoup la façon dont vous le dites. Je crois aussi qu'il y a un grand paradoxe dans la vie professionnelle, c'est qu'on n'est jamais rémunéré pour ce pourquoi on est motivé. C'est-à-dire que ce sont deux routes qui ne se croisent jamais. Il y a d'un côté la route de ce pourquoi je suis payé, qui est l'utilité sociale, ma prestation, ce que le monde du travail est prêt à rémunérer. Et puis, il y a une autre route qui est ce qui, moi, me fait me lever le matin. C'est jamais les deux en même temps. C'est toujours un petit miracle quand les deux s'ajustent à peu près.
Il y a peut-être des gens qui peuvent arriver à concilier les deux, avoir la chance de faire un métier qu'ils aiment vraiment. Et je sais pas, je pense aux artistes, par exemple, ou à des gens qui ont, aux écrivains, ou des gens qui ont vraiment choisi peut-être leur métier, non?
Eh ben, vous savez, moi, je crois que on a tous affaire avec, à un moment donné, même si on est artiste, même si on est soi-disant dans la vocation. Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on la rencontre jeune ou tard? Je crois pas que la vocation, ça soit d'être pompier ou infirmière, comme on le croyait à 6 ans. Ça peut être au contraire une promesse de grande désillusion. Je crois que même si on est artiste, on va se coltiner à un moment donné des moments de découragement, des moments d'abattement, voire des moments de renoncement et de grande souffrance. Personne n'y échappe. Non, moi je pense que la vocation, c'est une graine qu'il s'agit d'arroser tous les jours. Et peut-être qu'on ne la rencontre que au gré de petits instants un peu mystérieux. Là où je vous rejoins, c'est que qu'on soit dans une profession qu'on a choisie ou dans une profession qui s'est un peu plus imposée à nous, on a à chaque moment la faculté de voir tous les petits moments joyeux, quoi. C'est le regard que je vais porter sur mon travail qui va l'embellir ou l'enlaidir. C'est pas tellement mon travail lui-même.
Alors, vous proposez un petit exercice dans votre livre que j'ai trouvé assez amusant. Donc, on peut peut-être le proposer à nos auditeurs. Choisir d'être le héros du conte. Donc, par rapport à sa vocation, vous dites, voilà, il y a différents contes, les trois petits cochons, le chat botté. Lequel vous parle le plus? Est-ce que vous pouvez nous faire ce petit exercice peut-être rapidement?
Avec grand plaisir. Ouais. Le conte, c'est une porte d'entrée vers notre imaginaire. C'est une porte d'entrée vers notre monde onirique. On a parlé de faire attention aux signes extérieurs, à tous ces petits cailloux, comme je disais tout à l'heure, qui s'égrènent sur notre route. C'est important aussi de faire attention à nos signes intérieurs. Et quoi de mieux que notre enfant intérieur pour rencontrer cet espace imaginaire, onirique, symbolique? Le conte, c'est quelque chose qui va nous reconnecter instantanément à quelque chose de très très pur en nous, qui est le pays imaginaire dans lequel on était au contact de quelque chose de légendaire, de quelque chose de dans lequel on pouvait s'épanouir pleinement. Et moi, je crois que nos rêves ne se réalisent que si on y songe. Le meilleur moyen de passer à côté de ses rêves, c'est d'arrêter de rêver. C'est ça, un arriviste, hein. C'est Malraux qui dit ça dans La Voix Royale, que arriver, c'est arrêter de rêver. Alors, les trois petits cochons, on va pouvoir s'y reconnaître. Moi, je propose ces cinq contes-là, mais il y en a bien d'autres, hein. Mais ces cinq contes me paraissent décrire assez bien les configurations les plus fréquentes que je vois en entreprise, en tout cas dans le monde du travail. Alors, les trois petits cochons, c'est vraiment le conte du besoin de sécurité. C'est le conte qu'on va jouer, on va être le héros si on a peur du loup, si on a fait attention à construire une maison en briques et pas en bois ni en paille. On va rencontrer ça beaucoup chez des gens qui disent je me donne encore 3-4 ans dans un boulot que j'aime pas, mais dans 3-4 ans je me lance, je vais faire un grand voyage, mais pour l'instant je peux pas me permettre de, pourquoi pas, mais
encore privilégier la sécurité.
Voilà. Ouais. Un autre conte assez différent, c'est le chat botté. Alors le chat botté, c'est vraiment celles et ceux d'entre nous qui valorisent l'intelligence de situation. Qui peuvent être opportunistes, qui peuvent être dans cette espèce d'intelligence courbe, hein, cette espèce d'intuition incroyable qu'a le chat botté, puisqu'il fait passer le fils d'un meunier pour un prince, hein, pour le marquis de Carabas, si on se souvient. Ça, c'est des gens qui vont cultiver une espèce de légèreté, de capacité à improviser, à bricoler. C'est souvent des gens qui vont avoir plusieurs fers au feu, qui vont dire je suis passé à temps partiel et puis le reste du temps je me consacre à autre chose qui m'amuse. Voilà, je compense avec des béquilles privées ou professionnelles. C'est des gens qui vont plus avoir le goût du risque peut-être. Alors un autre conte que moi je rencontre souvent des archétypes de Cendrillon, oui. Homme ou femme. C'est vraiment des gens qui vont se retrouver détenteurs d'un statut enviable, détenteurs d'une position, mais avec la peur de l'imposture. On rencontre ça beaucoup chez des consultants, chez des freelances, chez des gens qui se disent j'ai gagné ma place au soleil, mais un jour les autres vont s'apercevoir que je la mérite pas, donc il faut absolument que je continue à courir, que je sois dans dans l'illusion d'en faire toujours plus. C'est évidemment une croyance dangereuse, la croyance de Cendrillon, parce qu'on oublie que dans le conte de Perrault, je crois, Cendrillon, elle doute pas une seconde du fait que le prince va revenir la chercher. Elle est vraiment dans cette joie qu'on peut cultiver par la pleine conscience. Il y a aussi un chapitre qui s'appelle Cultiver la joie. Voilà, comment vraiment être au contact de sa confiance en soi. Si ma question est celle de la confiance, il y a des chances que Cendrillon soit pas loin. Mmh. Un quatrième conte, alors que moi j'aime beaucoup personnellement, c'est pas vraiment un conte parce que on le doit à un auteur anglais qui s'appelle James Barry, c'est Peter Pan. Peter Pan, c'est vraiment ceux d'entre nous qui ont choisi une voie professionnelle un peu par défaut, qui voulaient différer le plus longtemps possible l'entrée dans la vie professionnelle, qui se voyaient artistes. Vous savez, c'est un peu la chanson de Souchon sur le bagad de l'Inde Biwe, quoi. On se voyait ailleurs et puis on s'ennuie un peu. C'est souvent des gens qui ont un état de déprime un peu latent dans leur travail, qui fonctionnent, qui sont pas vraiment heureux de leur boulot. Mais qui cultivent un jardin secret, c'est-à-dire qui sont quand même au contact de ce monde imaginaire, hein, de ce Neverland, de ce monde des enfants perdus. Donc, on rencontre beaucoup de Peter Pan parmi les managers, parmi des gens qui apparemment n'ont pas choisi leur profession et puis qui aspirent à autre chose. Et puis le dernier, c'est la Bergère et le Ramoneur. Alors c'est peut-être un peu moins connu, la Bergère et le Ramoneur. On le retrouve dans Le Roi et l'Oiseau, qui est un très joli film, un très joli dessin animé. Ça, c'est vraiment...
Je connais pas celui-là.
Ah, je vous le recommande, c'est de Grimaud avec des dialogues de Prévert. C'est vraiment très poétique et très proche du monde du travail parce que c'est l'histoire d'un roi qui est un peu comme Louis II de Bavière, donc un roi tyrannique, un peu fou, comme peut-être certains managers dans lesquels nos auditeurs reconnaîtront leurs managers, hein, qui sont... voilà, qui sont des rois tout puissants. Et pourquoi ils sont tout puissants? Parce que eux-mêmes, ils ont perdu leur amour de jeunesse. Et donc retrouver le contact avec ce qui nous mettait vraiment en émoi, ce qui nous touchait vraiment. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui sont coupés de leurs émotions, qui deviennent tout puissants parce qu'ils veulent pas aller voir leur fragilité. Et la Bergère Ramoneur parle vraiment de ça, quoi, de la possibilité de sortir de l'image. On est parfois éternellement comme des élèves qui sont sages comme des images dans le monde du travail. Je sais pas si vous avez repéré autour de vous des gens
qui... ce qu'on attend de vous, quoi. Ce qu'on, voilà, qu'on vous dit de faire, ce qu'on attend.
On a 40 ans et on continue à faire ses devoirs. Et il est peut-être temps aujourd'hui, ici maintenant, d'arrêter de faire ses devoirs parce qu'on travaille pas pour nos parents, on travaille pas pour nos profs. On travaille pour accomplir quelque chose qui va nous épanouir.
Alors en quoi ces contes peuvent vous aider justement? On peut s'identifier plus ou moins à l'un ou l'autre et puis... Ensuite, en quoi ça peut vous aider à justement à trouver votre vocation ou à être plus au clair avec ça?
Je crois qu'on peut effectivement trouver quel est le conte qui nous correspond le plus. Donc déjà l'accueillir, le reconnaître, l'accepter. Et puis ensuite de choisir le dénouement du conte. C'est-à-dire on peut aussi écrire l'histoire à son tour, voir si on a envie que ça se termine bien ou mal et qu'est-ce que je dois être amené à faire si je veux que ça se termine bien? Moi, je suis frappé du nombre de gens qui remettent à plus tard, ça s'appelle la procrastination. Vous savez, qui disent, pour l'instant, tant que les enfants sont petits...
Il y a un bouquin qui est sorti là-dessus il y a pas longtemps, sur la procrastination.
Ah bah voilà, je crois que c'est un immense sujet de coaching, mais probablement beaucoup d'entre nous vivent ça malgré eux, c'est de se dire, je peux pour l'instant pas me permettre de vivre. Pour l'instant, je fonctionne, je survis, mais quand les enfants seront grands, quand j'aurai remboursé mon prêt, quand j'aurai un CDI, enfin, on a toujours mille raisons de repousser à demain, et puis demain n'arrive jamais.
Bien sûr.
Donc le conte, c'est aussi une façon de dire, c'est moi qui deviens le compositeur et l'interprète de ma vie, et je n'en suis pas juste le témoin funeste ou chanceux, mais je suis vraiment acteur.
Alors, autre sujet qui est important aussi, c'est un petit peu la détermination familiale, ce que vous appelez les cycles répétitifs de carrière. Donc, essayer de rompre ces cycles répétitifs de carrière, c'est-à-dire choisir véritablement ce que l'on a envie de faire plutôt que de faire comme les parents le souhaitent ou comme la tradition familiale nous l'impose. C'est vrai que c'est encore assez fréquent de voir des familles de médecins, des familles d'ingénieurs, des familles d'artistes, d'ouvriers, que sais-je. Et on n'a pas toujours le courage ou la clairvoyance pour aller vraiment vers autre chose, vers ce qui nous correspond.
Ah, mais c'est un sujet qui est pour moi absolument central, alors qui nous éloigne un peu de la pleine conscience. Après tout, c'est juste la conscience de qu'on peut faire autrement. On peut faire pareil, on peut faire autrement. Il y a certains travaux qui disent on est face à trois R dans notre vie. Le premier R, c'est reconnaître. Reconnaître que je suis sur le même chemin et que il y a un contrat qui a été fait sur ma tête, entre guillemets. C'était un peu la chanson de Benjamin Biolay qu'on écoutait tout à l'heure. Ensuite, je peux reproduire. Je peux choisir de reproduire le même schéma. Vous savez, il y a deux formules qui, pour moi, sont les pires formules qu'on peut dire en matière de pleine conscience. La première, c'est « ça va passer ». Et la deuxième, c'est « pourvu que ça dure ». Alors, s'il y a des auditrices et des auditeurs qui se prennent en flagrant délit de dire « oh, ça va passer »,